What you got?
Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen.
France Inter.
Yeah.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
Salut, prime.
Rastafari.
Very good trip.
Stand up for your right.
Bob Marley. Mishka Asayas.
Get up, stand up.
Our music is a part, I was a part, you know.
Aujourd'hui, deuxième volet de notre série où l'on va découvrir les premiers sommets de Bob Marley, parfois des chefs-d'œuvre méconnus, enregistrés au temps où personne ou presque ne le connaissait, hors de la Jamaïque, au temps où, pour ainsi dire, Bob Marley n'était pas encore Bob Marley. La voix est facile à reconnaître, le rythme aussi, mais il y a ce son bizarre, une espèce de coassement. En fait, les notes très basses d'un orgue électrique. On entend au loin un rire idiot de clown qu'on croirait sorti du train fantôme d'une fête foraine. Mr. Brown, la chanson qu'on vient d'entendre, a été un tube en Jamaïque en 1970 pour le trio vocal des Wailers. C'est Bob Marley qui la chantait. On reconnaît bien sûr son style reconnaissable entre tous. Mais dans cette chanson, il n'est absolument pas question d'amour, de lutte contre le système, entre guillemets, d'appel à l'unité contre les forces du mal, de foi rasta, soit les thèmes qu'on lui connaît. C'est une chanson d'un style comique particulier qui évoque le surnaturel. Alors voilà, en deux mots l'histoire, plusieurs personnes autour de Kingston prétendaient avoir croisé la route d'un fantôme, un certain Mr. Brown. Elles juraient l'avoir vu pilotant le jour même de ses funérailles une fourgonnette où il transportait son propre cercueil surmonté de trois étranges vautours. Voilà, drôle de corbillard. Un musicien qui s'appelait Glenn Adams en avait fait une chanson que le réalisateur artistique Lee Perry avait eu l'idée de faire interpréter dans son studio par les Wailers, qui était le trio vocal le plus populaire de l'île. Alors bien sûr, pour beaucoup d'entre nous, l'histoire de Bob Marley n'a commencé que quelques années plus tard, dans la première moitié des années 70, à Londres, en Angleterre, quand le fondateur d'une compagnie de disques très réputée, à la pointe de l'avant-garde musicale, elle avait fait connaître notamment les groupes King Crimson et Jethro Tull, une compagnie qui s'appelait Island, comme une île, a décidé de lancer les Wailers. Eh bien, ce fondateur s'appelait Chris Blackwell, il était blanc, jamaïcain, et il a présenté les Wailers comme, je cite, des Rolling Stones noirs. C'était dans le but avoué, évidemment, de séduire le public blanc occidental. Blackwell venait d'une famille très aisée, établie à Kingston, à la capitale de l'île. C'est là qu'il avait grandi, hein, d'où le nom de sa compagnie. Il cherchait depuis longtemps un moyen de faire connaître au monde entier cette musique jamaïcaine qu'il adorait et qui se caractérisait alors par le reggae, un rythme nouveau comme déséquilibré, accentuant les contretemps et qui pouvait dérouter à la première écoute. Et Chris Blackwell cherchait, mais il trouvait pas. Jusqu'au jour où Bob Marley est entré dans son bureau. Et là, pour le citer, il a eu comme une vision. Pas de doute, c'était lui, Bob Marley, qui allait devenir une star mondiale et ouvrir la porte aux autres. Et Blackwell a eu raison, mieux, il a été un visionnaire. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, très peu de professionnels y croyaient, même aucun, et encore moins les intéressés. Bob Marley et ses camarades en étaient en effet arrivés à un point où ils n'espéraient plus. Trop d'échecs, trop de galères, trop d'espoirs déçus. Bob, son cousin Bunny et Peter Tosh, le trio vocal des Wailers, chantaient ensemble depuis l'adolescence, imaginez. Ils avaient été le groupe le plus populaire de Jamaïque dans les années 60. Ils avaient repris, adapté, puis composé et enregistré des centaines de chansons sorties en 45 tours. Nombre de leurs disques avaient été des tubes, leurs concerts avaient attiré les foules et ils n'en avaient retiré aucun bénéfice. On les avait exploités, escroqués, rançonnés même. Tout s'était mal passé pour eux et ils n'y croyaient absolument plus. Oui, pendant 2 ans, les Wailers avaient enchaîné tube sur tube en Jamaïque et ils n'avaient, selon leur témoignage, pas recueilli un seul centime. Bob Marley avait dû rejoindre sa mère, émigrée aux États-Unis à Wilmington, à une banlieue de Philadelphie aux États-Unis, là où vivait une grosse communauté jamaïcaine. Il s'était retrouvé à nettoyer des sols dans un hôtel et à transporter des pièces détachées chez Chrysler. Et il n'y croyait plus. Alors, l'histoire de Bob Marley, l'histoire musicale de Bob Marley avant sa célébrité mondiale, n'a rien d'une préhistoire ou d'une curiosité archéologique. Musicalement parlant, c'est une mine et ça a commencé en 64 par une chanson des Wailers qui s'appelait « Simmer Down ». Une chanson où il encourageait les jeunes désœuvrés des bidonvilles et ghettos de Kingston, que les autorités présentaient comme des voyous, hein, ceux qu'on appelait les Rude Boys, à se calmer et à ne pas tomber dans le piège de la provocation et des représailles. Le rythme était celui de ce qu'on a appelé le ska, qui était une évolution du mento, une sorte de version jamaïcaine du calypso, partie de l'île de Trinidad, adaptée à un rythme syncopé venu de la Nouvelle-Orléans. Bah oui, la Nouvelle-Orléans, évidemment, parce qu'en Jamaïque, comme à Cuba, bien sûr, ou encore en Haïti, on captait les stations de radio qui émettaient par-delà tout le golfe du Mexique, depuis Miami en Floride aussi.
Mishka Sayas. Very Good Trip, Bob Marley.
We can rock it all night long, darling. Cause I've got to love, darling. Love, sweet love, darling. Man, the mood has got to me. Rock me, 'cause I've got your love, darling. Love, sweet love, darling. Quiet as the night.
Premier sommet de Bob Marley, une chanson qui s'appelle Mellow Mood. Non pas attribuée aux Wailers, mais à un trio à la dénomination éphémère Bob, Rita and Peter, qui publia en 68 un 45 tours, un single, pour une compagnie américaine. L'autre face était Bands Down Low, une chanson que vous connaissez presque sûrement, parce qu'elle figure dans un des albums les plus célèbres signés par Bob Marley and the Wailers, Natty Dread, soit l'homme aux dreadlocks, sorti en 74, sous une autre version évidemment. Alors pour tout simplifier, il existe encore une autre version de Bend Down Low, plus ancienne, sortie en 66, qui avait été un des plus gros tubes des Wailers en Jamaïque. Il faut dire que la discographie de Bob Marley et des Wailers est un écheveau extrêmement décourageant à démêler. Bref, ce n'est pas un producteur jamaïcain qui a diffusé la version qu'on vient d'entendre de cette chanson, Mellow Mood, mais une compagnie new-yorkaise qui s'appelait JAD, J-A-D. Parce que le premier entrepreneur à vouloir faire de Bob Marley une star internationale ne fut pas le Jamaïcain blanc Chris Blackwell, installé à Londres, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais une paire d'associés tout à fait inattendus, deux Noirs américains, Danny Sims et Johnny Nash. Alors l'histoire est vraiment étonnante, elle est méconnue et elle mérite d'être racontée. Danny Sims, que Bob Marley appelait pour blaguer, je cite, « mon parrain au crâne rasé », vous savez, parrain au sens mafieux, était un bonhomme qui avait grandi dans le ghetto noir de Chicago. Cet ancien joueur de football américain, bien sûr, avait réussi dans la vie puisque Danny Sims avait ouvert un restaurant à New York, près de Times Square, ce que, paraît-il, aucun noir n'était parvenu à faire avant lui. Il était devenu l'ami d'un chanteur à la voix d'or, originaire du sud du Texas et qui s'appelait Johnny Nash. Et associés, Sims et Nash avaient créé une maison d'édition musicale, Cayman Music, comme les îles Caïmans, du même nom, ainsi qu'une compagnie discographique. Alors Johnny Nash, c'était une vedette à l'époque et en apparence, c'était l'anti-James Brown. Un chanteur noir, mais à la belle voix suave, à la coiffure sage, souvent vêtu de blanc, à la gestuelle douce et réservée, un chanteur de variété qui plaisait à un public adulte, notamment blanc. Et qui, pour autant, comme son grand camarade Harry Belafonte, œuvrait ardemment pour la promotion des artistes noirs et antillais. Alors en 67, début 67, Danny Sims et Johnny Nash, jeunes et riches, mettent le cap sur la Jamaïque. Alors, selon le point de vue assez terre-à-terre et sans doute pas totalement infondé de Bonnie Livingston, c'était pour chercher le soleil et les filles. Un soir, Johnny Nash assiste à ce qu'on appelle une groundation, c'est-à-dire une petite cérémonie religieuse rasta qui se tient dans la cour d'un certain Mortimo Plano, sorte de maître à penser, je vous en rapporterai, dans le quartier de Trenchtown à Kingston. Il y a là une quarantaine de personnes, dont des enfants. Il y a la ganja, que les rastas fument pour entrer en communication avec le grand tout, qui circule. Il y a le son des hauts tambours aquettés, tendus d'une peau de brebis, qui résonnent sourdement, créant une sorte de transe lancinante. Et la nuit est éclairée par la seule lueur des lampes à pétrole. Il y a aussi de la fumée de charbon de bois et de ganja qui se mêlent. Imaginez l'ambiance. Johnny Nash, d'ailleurs, a avoué que ça lui a fait un peu peur. Alors, pour avoir une idée sonore de l'ambiance de ces cérémonies, même si celle dont je vous parle n'avait sans doute pas la même ampleur, vous pouvez jeter une oreille, comme je l'ai fait, à un enregistrement publié en 73 et réédité depuis, qui s'appelle The Mystic Revelation of Rastafari, et c'est signé par Count Ossie. C'est captivant, c'est même envoûtant, entre prêche, jazz et polyrythmie de percussion. Et d'ailleurs, un des grands admirateurs de cet enregistrement est Keith Richards, un des Rolling Stones, qui possède, soit dit en passant, une maison à Ocho Rios. C'est une station balnéaire située sur la côte nord de la Jamaïque. D'ailleurs, Keith Richards a enregistré un album dans ce style à la fin des années 90, attribué à Wingless Angels. Bref, à cette soirée à laquelle assiste Johnny Nash, chante un trio. Bob Marley, sa femme Rita et Peter Tosh. Et oui, il faut souligner que Rita, la femme donc de Marley, a pris la place de Bonnie Livingston, le troisième Wailer, qui doit alors purger une peine de prison de 1 an et demi pour détention de cannabis. C'est donc une cérémonie enfumée qui sent le soufre, surtout pour Johnny Nash, qui a loué une villa avec serviteurs dans un quartier résidentiel de Kingston. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec ce décor. Mais Johnny Nash est absolument subjugué par ce qu'il a vu et surtout par ce qu'il a entendu. Et quelques années avant le blanc jamaïcain Chris Blackwell, eh bien lui aussi, il a vu la lumière. Et il persuade son compère Danny Sims qu'il tienne en la personne de Bob Marley un diamant brut et que c'est à eux de le polir et de le sertir pour le vendre au monde entier. Peter, Rita et bientôt Bonnie, doté d'une voix d'or, les fascinent également. Un an plus tard, Johnny Nash écrira à Sadella, la mère de Bob, remariée aux États-Unis et établie à Wilmington, là où elle a déjà accueilli son fils, que celui-ci va devenir la plus grande star au monde. Ce qui arrivera, mais hélas, pas du tout comme lui et Danny Sims l'imaginaient.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Very good trip, Bob Marley.
All they want us to do is see that we might get fed up. But tell the world that this is just another shake up. This world is mine, it can be yours, my friend. All I don't want you to do is pretend. So you got to rock to the rock. Suck it to the sun. Right now, you're moving through. Ooh, yeah. Ooh, 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 ooh. Though the trees have time to blossom, change their leaves. I'll tell the world you've got something up your sleeve. This world is mine, it can be yours, my friend. To do is pretend, so you got to rock to the rock. Ooh, yeah, shock it to the sock. Right now, move and groove. Ooh, yeah,
Alors revenons à la scène que je vous ai décrite tout à l'heure. Johnny Nash, subjugué par la Ground Nation, la cérémonie Rasta à laquelle il vient d'assister, propose à Bob Marley de venir lui rendre visite le lendemain dans la villa qu'il a louée, située dans les hauteurs de Kingston. Alors, il faut imaginer la scène. Bob est alors un Rasta, autant dire un va-nu-pied, puisque toutes les autorités de l'île considèrent les Rastas comme une secte de marginaux drogués, pénétrés de croyances absurdes. Autant dire des bons à rien, dont il n'y a rien à attendre. Des voisins de Danny Sims et Johnny Nash, qui voient marcher dans le quartier ce pouilleux avec sa guitare en bandoulière, appelle carrément la police pour la prévenir qu'un délinquant se promène dans le quartier. Et elle vient et elle l'arrête. Il faut un coup de fil à Danny Sims pour débloquer la situation. Et lorsque les serviteurs noirs engagés par Johnny Nash voient débarquer ce type hirsute et débraillé en tenue kaki, ils ouvrent des yeux ronds comme des soucoupes. Quand Rita et Mortimo Plano, le guide spirituel Rasta, débarqueront à leur tour à la villa de Nash et Sims pour s'y installer, eh bien, les mêmes employés feront un scandale, refusant de les servir à table. Et pour débloquer la situation, eh bien, Mortimo Plano fera venir un cuistot Rasta dans la villa. Alors, on a entendu tout à l'heure une chanson qui s'appelait Rock to the Rock, un des fruits de ces séances que je vous ai décrites, organisées par Danny Sims, restées longtemps inédites, et qu'on a pu découvrir il y a plus de 20 ans, en 1997, grâce à la parution d'une série de coffrets intitulée The Complete Bob Marley and the Wailers, réunissant tous les enregistrements disponibles de 67 à 72 et dont la parution fut un véritable événement. Voici à présent un très beau titre qui s'appelle Chances Are, au style très soul, d'où le reggae, vous allez l'entendre, est totalement absent.
Very Good Trip, Mishka Assayas, Bob Marley.
We're gonna leave now. Sorry for the victim now. Though my days are filled with sorrow, I see years of bright tomorrow.
Hang on right now. Yeah.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Very good trip. Bob Marley.
My Cup, un vrai reggae attribué en 70 à Bob Marley and the Wailers, enregistré et réalisé comme Mr. Brown, qu'on a entendu au début de ce programme, par Lee Perry avec son groupe Les Upsetters, dont le son et l'approche ont été déterminants dans la naissance du style de Bob Marley tel qu'on le connaît. Alors je reviens à l'entreprise des Américains Danny Sims et Johnny Nash. Ils ont absolument fait tout ce qui était en leur pouvoir pour donner une dimension internationale à Bob Marley. Et pour ça, eh bien, il leur a fallu nager à contre-courant. Comme le raconte Francis Dordor dans son livre Le Dernier Prophète, hein, Francis qui a connu Bob Marley et a voyagé en Jamaïque, Danny Sims a vite senti que ce ne serait pas facile du tout. Je cite les propos de Danny Sims, rapportés par Dordor. Tout le monde me disait que le public n'était pas encore prêt à écouter ça, et tout le monde avait sans doute raison. Le programmateur d'un réseau de radio de la côte est américaine est alors le seul à entrouvrir sa porte. Il s'engage à faire de la promotion, à condition que Bob et Rita viennent répondre à des interviews, voilà, faire une petite tournée. Seulement, c'est difficile parce que personne aux États-Unis ne comprend un traître mot au patois jamaïcain dans lequel s'exprime Bob Marley. Et puis de toute façon, la sortie de l'album Bob, Peter and Rita en 68 aux États-Unis est un pur non-événement. Danny Sims et Johnny Nash redonneront plus tard une autre chance à Bob Marley en Europe, je vous le raconterai. Je vous parlais de Lee Perry. Alors pour autant qu'on puisse affirmer qu'il existe un inventeur du reggae, en tout cas du son si particulier qui le caractérise et que chacun reconnaît instantanément, eh bien c'est lui. Lee Perry a été un pionnier du dub. Le dub, un procédé inventé et perfectionné en Jamaïque par le précurseur King Tubby. Sur la face B de chaque 45 tours qui paraissait en Jamaïque, il existait ce qu'on appelait une version, c'est-à-dire une version instrumentale, hein, c'est le même mot, débarrassée de sa piste vocale et agrémentée d'effets spéciaux amplifiant ou au contraire atténuant certaines sonorités. Les procédés les plus courants étaient l'écho, hein, qui vous plongeait dans un inquiétant tunnel, et la réverbération sonore qui vous donnait l'impression d'être transporté au cœur d'une cathédrale. Le son du morceau instrumental vous donnait ainsi l'impression de monter et de descendre, hein, du sommet au creux d'une vague, hein, un peu comme sur un bateau ivre. Lee Perry a été aussi un pionnier dans l'utilisation de divers bruitages et même au fond d'une forme de sampling, un échantillonnage sonore alors totalement artisanal. Par exemple, il a utilisé dans un titre le son d'un lit qui grinçait pour suggérer une ambiance érotique torride. On l'a surnommé Lee Perry le Phil Spector jamaïcain. Il avait d'ailleurs la même réputation de folie. Il se faisait surnommer The Upsetter, hein, le trouble-fête, ou peut-être si vous préférez l'emmerdeur. Blague à part, son groupe les Upsetters réunissait certains des musiciens les plus brillants de l'île, notamment les frères Barrett, le bassiste Famleyman et le batteur Carly, qui allait devenir une section rythmique modèle imitée de tous lorsqu'ils accompagneraient Bob Marley. À la fin des années 60, Lee Perry avait en fait retrouvé Marley, qui était désabusé après une série de déconvenues. Oui, retrouvé parce que il avait croisé sa route à ses débuts. C'est lui qui auditionnait les chanteurs pour l'homme qui fut le premier producteur des Wailers et de bien d'autres, Clement Dodd, dit Coxon. Perry a aussi d'ailleurs écrit pas mal de chansons. Alors quelques mots sur lui, c'est vraiment un personnage hors du commun. D'ailleurs, il est toujours actif, hein, 80 ans passés. Ce tout petit homme, très agile, avait remporté jeune homme des concours de danse. Il avait été élevé sans père, hein, par sa mère, dans la misère. Il était devenu, même avant ses concours de danse, enfant, il avait été champion de domino. Et puis Lee Perry prétend avoir reçu la révélation de sa vie, en tout cas de sa mission sur cette terre, alors qu'il travaillait comme ouvrier terrassier sur le chantier d'un hôtel. Il pilotait en effet un bulldozer qui remuait des pierres, ce qui faisait évidemment un fracas du diable. Alors cité par Bruno Blum, un autre grand spécialiste français de Bob Marley et du reggae, voici le témoignage de Lee Perry. Les chocs des pierres faisaient des sons et soudain, j'ai entendu comme un bruit de tonnerre. J'ai vu un éclair et j'ai entendu une voix qui m'a dit d'aller à Kingston. Kingston, ce qui veut dire le roi des pierres, l'âme des pierres. C'est de là que vient la musique. Bon, Lee Perry a raconté énormément d'histoires. Il a aussi déclaré qu'il venait de la planète Jupiter et qu'il avait été capturé par des extraterrestres. Voici deux chansons signées par Bob Marley and the Wailers, enregistrées par Lee Perry avec les Upsetters, Cornerstone et Duppy Conqueror, aujourd'hui dans une série spéciale d'été consacrée à Bob Marley. The stone that the pillar refused will always be the head cornerstone. Sing it, brother. The stone that the pillar refused will always be the head cornerstone. You're a builder, baby. Here I am, a stone. Don't you pick and refuse.
them set me free again. Yes, me friend, me dip on street again. The bars could not hold me, force could not control me now.
Chansons les plus notables enregistrées par Bob Marley avec les Wailers en Jamaïque avant leur notoriété internationale. Duppy Conqueror est sorti en 1970 et fait partie de ces chansons enregistrées par Lee Perry et ses musiciens accompagnateurs, les Upsetters. Nombre de ces chansons allaient refaire surface, reprises et réorchestrées par Bob Marley avec ses Wailers, un nom qui désignerait désormais ses musiciens et non plus ses camarades d'enfance, les chanteurs Bunny Livingston et Peter Tosh, qui allaient suivre un autre chemin. Dans cette chanson qu'on vient d'entendre, Duppy Conqueror, eh bien Bob Marley semble s'encourager lui-même et l'humanité tout entière à prendre des forces, à ne pas baisser les bras. « Oui, dit la chanson, on m'a diffamé, on m'a traîné dans la boue, on m'a emprisonné, mais je suis libre, on m'a relâché, me revoici, je vais gravir la plus haute des montagnes et le Tout-Puissant m'accompagne, je vais repousser les forces du mal qui m'entravent parce que je suis un Duppy Conqueror, un triomphateur de démons, hein, pour simplifier. » Faut dire, en Jamaïque, c'est pas exactement un démon. Le Duppy est une sorte d'esprit malin, errant, une sorte de fantôme, hein, sous plein de noms différents. On trouve l'équivalent de ça dans toutes les religions pré-chrétiennes. Alors voici un aspect intéressant à souligner au sujet des chansons de Bob Marley quant à la façon dont il les écrivait. En fait, il n'écrivait jamais une chanson dans la continuité avec un début, un milieu et une fin. Ses chansons, en effet, ne racontaient pas à proprement parler des histoires. Il griffonnait des formules qui lui traversaient l'esprit. Il les notait comme ça sur des bouts de papier qu'il gardait, puis ensuite il les collait ensemble intuitivement. C'était en somme des assemblages de fragments. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir quand j'évoquerai l'enfance et les origines de Bob Marley, marquées par une série de signes du destin à la façon d'un héros tragique. Je n'ose pas employer les termes de martyr ou de saint, même si quelques-uns n'ont pas hésité à le faire. En tout cas, malgré des années de travail et d'acharnement, il n'y avait pas un musicien plus discipliné et plus dur à la peine que Bob Marley, hein, selon le témoignage de son ami qui avait été une sorte de manager, le footballeur Skill Cole. Eh bien, Marley a passé des années à ne pas recueillir les fruits de son labeur, victime de contrats léonins. Je suis tombé sur un témoignage assez extraordinaire, livré par Bunny Wailer et recueilli par l'Américain Roger Stephens, auteur d'une passionnante histoire orale de Bob Marley, où j'ai beaucoup puisé, un livre où l'auteur a compilé les témoignages de tous ceux qui ont connu Marley, qui s'appelle « So Much Things to Say ». Ça a été traduit par Bruno Blum en français et publié chez Robert Laffont. Bunny Wailer raconte qu'un soir, dans une boîte, il entend Lee Perry expliquer à Bob Marley qu'ils ne vont pas partager, comme c'était prévu, les bénéfices des ventes de leurs disques moitié-moitié, mais qui va simplement leur offrir royalement 10 cents de dollars jamaïcains par exemplaire vendu. Bob Marley, effaré et comme tétanisé par ses propos. Quant à Bunny Wailer, qui lui a entendu cette conversation en tendant l'oreille, c'en est trop, il explose. Et je cite ce qu'il raconte à Roger Stephens. « Je m'en suis pris à lui, impossible de me retenir. Je lui ai dévissé la tête. Il n'était plus rien. Il est tombé sur les chaises, tout s'est cassé. Les verres, les chaises, les gens. » Bob observait la scène sans bouger, mort de peur. Alors après ça, Lee Perry essaie de rattraper le coup. Il organise une réunion de conciliation dans son bureau. Les trois Wailers sont là avec lui, autour d'une table. Lee Perry demande à sa petite amie, qui est présente, d'apporter une bouteille qui se trouve dans sa voiture qui est garée en bas. Ce qu'elle fait, elle revient avec la bouteille, personne ne comprend ce que c'est, ça ressemble à de la colle. Peter Tosh, curieux, la prend entre les mains pour la regarder, et très nerveux, Lee Perry lui demande de la reposer immédiatement. Il lui dit « touche pas à ça, c'est de l'acide ». Quel acide ? Bah oui, l'acide qu'on déverse dans la matrice de pressage des disques pour dissoudre le métal. Et Bunny Livingston lui a compris, c'est pour lui, c'est la vengeance de Perry. Et Peter Tosh, qui lui aussi a compris et qui mesure lui près de 2 mètres et qui n'a pas peur de la bagarre, l'a brandi devant Perry, Perry qui ressemble à un gnome à côté de lui. Perry a tellement la trouille qu'il fait 4 culbutes avant de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Peter Tosh casse la bouteille sur la table dont le métal fond et se dissout aussitôt comme sous l'action d'un fer à souder. Alors Lee Perry prétendra évidemment quant à lui que cette histoire est fabriquée, que tout ça n'a jamais eu lieu, que c'est une invention totale. Et pendant ce temps-là, eh bien, le soleil brille. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move your dancing feet now. To the rescue, here I am. Want you to know your gather the rainbow, yeah, yeah. Want you to know I'm a rainbow too. Make you wanna move
dancing feet, yeah. But to the rescue, here I am. Want you to notice if you can, here I stand. No, 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 no. Can you understand me now, baby? Do you believe me?
France Inter.
RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
Very good trip. Bob Marley.
C'est encore une de ces chansons que Bob Marley a réalisées sous la direction de Lee Perry et qu'il allait réenregistrer avec les Wailers à Londres. Alors il y a une chose qui revient souvent dans les témoignages de ceux qui ont côtoyé les Wailers à leur début, de Coxon à Danny Sims et Johnny Nash, c'est qu'ils ne considéraient pas Bob Marley comme le meilleur chanteur des trois Wailers. Bunny et Peter avaient, en effet, selon le témoignage de beaucoup, des voix, d'ailleurs on peut l'entendre, des voix plus assurées, plus suaves, à côté desquelles celle de Bob Marley pouvait paraître plus limitée. Et en fait, c'est Lee Perry qui aurait encouragé Bob Marley à chanter à sa façon, peut-être d'une autre façon, à faire d'ailleurs comme lui, Perry, avait fait, Perry qui n'avait pas la voix du siècle, et à faire, d'une certaine façon, de sa faiblesse une force, en mettant en avant cette voix un peu étranglée quand elle montait. Alors un dernier mot avant que cet épisode ne prenne fin et qu'on entende une dernière fois aujourd'hui la voix de Bob Marley. Un dernier mot sur le choix du nom de Wailers pour le trio vocal qu'il avait donc formé avec ses deux amis. Un nom auquel Bunny Livingston donne une origine surnaturelle. Et oui, il raconte, Bunny, que c'est une voix mystérieuse, sortie de nulle part, un peu la bouche d'ombre de Victor Hugo, qui aurait un jour prononcé ces mots qu'il aurait entendus, « The Wailers ». Et selon lui, c'était logique, parce que wailing, c'est le fait de traverser les ténèbres, de souffrir, de pleurer, de hurler. Et comme le souligne le biographe Roger Stephens, « To wail, c'est réclamer la justice à corps et à cri, c'est implorer le Tout-Puissant pour qu'il vous offre une vie meilleure, c'est supplier du fond du cœur, comme dans le gospel. » On le verra dans l'épisode suivant, les idées afrocentristes et le Black Power ont joué un rôle immense dans la conscience de Bob Marley, notamment grâce à l'influence de son guide spirituel Rasta, Mortimo Plano. Qui a écrit les paroles d'une chanson à la gloire de l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, le roi des rois, que les Rastas considéraient comme un nouveau messie. Une chanson dont l'air était celui d'une ballade popularisée par Elvis Presley, Crying in the Chapel, transformée par Mortimer Plano en Sélassié is the Chapel. Une interprétation rare de Bob Marley, un chef-d'œuvre, ne ratez surtout pas ça.
Hail Selassie is the chapel. Power of the Trinity.
And our God.